L'appareil photo est devenu au fil du temps l'un des plus gros atouts de l'iPhone. Si Apple a commencé avec un simple capteur 2 mégapixels, l'iPhone 16 Pro embarque désormais un gros bloc composé d'un ultra grand angle, d'un téléobjectif et d'un capteur principal de 48 mégapixels. Le téléphone est parfois utilisé dans des productions professionnelles et même dans certains blockbusters. La qualité de l'appareil photo est devenue l'un des éléments clés d'Apple pour faire la retape de ses téléphones. Si l'on progresse d'un point de vue technologique, Cupertino a également fait de grandes avancées du côté du logiciel. Le traitement numérique prend une part de plus en plus importante avec le temps. Les développeurs tiers ne sont pas en reste pour exploiter les capacités du téléphone et proposer des fonctions indisponibles sur l'appareil photo de base. Tout cela permet d'avoir un smartphone qui fera autant office de caméra pour les vacances que de système d'appoint pour photographe ou cinéaste. Sans surprise, l'iPhone 16 Pro s'est encore amélioré en photo. Le dernier téléphone d'Apple a gagné un nouveau bouton dédié à cet effet en plus de nombreuses avancées logicielles. Où en est-on à ce niveau-là? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Olivier, qui est pigiste pour MacG, à côté de son travail de photographe professionnel. Salut Olivier.
Hello, bonjour.
Et je suis également avec Raphaël de l'entreprise Créacid, à qui l'on doit par exemple l'application d'appareil photo Hydra. Celle-ci tire parti de l'intelligence artificielle et du machine learning pour dépasser les limites matérielles de l'iPhone. Salut Raphaël.
Oui, bonjour à tous.
On va commencer avec une question pour toi Olivier. Toi, tu es photographe pro, comme je le disais. Quel appareil photo tu utilises au quotidien?
Alors moi, je suis la team Canon. Pour le détail, j'ai un Neo R5 Mark II et un vieux EOS R. C'est pas un choix idéologique. Hein. J'ai commencé moi ma vie dans la vidéo, et donc j'ai à une époque où on travaillait avec des Betacam à l'époque, donc c'était beaucoup du Sony, mais on utilisait essentiellement des objectifs Canon, et donc c'est là que j'ai découvert la marque et j'ai découvert la qualité un peu de leurs objectifs. Donc tout logiquement, après, quand je me suis mis au boîtier, je suis passé chez Canon. Mais pour la vidéo, j'ai beaucoup utilisé la série des GH chez Panasonic. Donc je suis passé par le GH3, puis le GH4 et le GH5. Et j'ai totalement quitté Panasonic quand Canon a commencé à faire sérieusement de la vidéo il y a quelques années, 2018-2019. Donc maintenant je suis totalement Team Canon.
Ok. Et ton rapport à l'iPhone? T'as un iPhone, j'imagine?
Oui, alors j'ai un iPhone 13 Pro. En fait, je n'arrive pas à passer au suivant, quoi. C'est à chaque fois, j'attends ce qui va pouvoir déclencher chez moi l'envie de passer au suivant. Et je pense évidemment à la photo. Et ben, depuis le 13, j'ai jamais été convaincu au point de redépenser 1300 ou 1400 euros.
Ok. Et toi Raphaël, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Hydra 2? C'est quoi l'intérêt de cette app par rapport à l'app iPhone préinstallée?
Oui, alors bon, Hydra chez nous, c'est une ligne produit en fait. Hein. Donc Hydra 1, on l'a sorti en 2015. Ça faisait essentiellement de la fusion. On voulait augmenter la quantité de lumière en prenant plusieurs photos et donc en les fusionnant. Et en 2022, on a sorti Hydra 2 qui se base sur d'autres techniques. En fait, on avait accès au capteur RAW, au format de fichier RAW des iPhones. Et on a continué à faire de la fusion, mais on attaque du coup le capteur beaucoup plus bas. Donc on fait le dématrissage et le débruitage directement nous-mêmes sur base des données brutes du capteur en utilisant des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle. Okay. Et alors on le spécialise en fait, notre application caméra, on la spécialise pour des scénarios bien précis comme un mode basse lumière ou de l'HDR extrême ou alors aussi de l'augmentation de résolution par un zoom numérique en fait. Voilà, ça c'est essentiellement ce qu'il y a derrière Hydra 2.
Ok. Et vous avez d'autres applications un peu axées vidéo, il me semble, non?
Oui, alors on a Emulsio, donc il y a une application pour stabiliser les vidéos. Je reparlerai peut-être un peu plus tard, mais on va la faire évoluer également. La différence par rapport à Hydra, c'est que Hydra, on attaque le capteur photo directement. Emulsio, c'est du post-processing, donc la vidéo a été tournée par ailleurs, sur iPhone ou sur un autre appareil, hein, ça peut être un drone, voilà. Et alors on la retraite sur l'iPhone à ce moment-là pour améliorer sa qualité.
Ok. Et Hydra, du coup, c'est l'application principale de Créacid?
On a trois applications principales, je veux dire. Il y a Hydra, Emulsio et Prismo. Prismo, c'est le scanning de documents.
Ah oui, ok. Comme je le disais en intro, Apple met de plus en plus le paquet sur la partie photo de l'iPhone. Olivier, est-ce que tu penses qu'elle va dans la bonne direction?
Globalement, que ce soit Apple ou la concurrence d'ailleurs, hein, le smartphone, d'une façon générale, répond à un vrai besoin. Pour moi, hein, disposer en permanence d'un appareil photo dans sa poche, avec la possibilité du partage immédiat dans une qualité très très acceptable, bah, ça répond, non seulement ça répond à un besoin depuis les années 2010, mais en plus, évidemment, le phénomène s'est développé, il s'est accéléré, évidemment, à travers les réseaux sociaux qui encouragent tout ça. Et donc, tout le monde veut poster, tout le monde veut influencer, tout le monde veut partager, que ce soit en famille, entre amis ou vis-à-vis d'une audience. Donc, forcément, on est heureux de voir que Apple ou les autres travaillent énormément sur la photo et la vidéo. La vidéo et la photo, moi, je les considère comme deux supports à la fois faciles, universels et ultra impactants. Donc, pour moi, d'avoir tout ça dans la poche, c'est assez magique.
Et tu te sers beaucoup de ton iPhone pour prendre des photos ?
Oui, alors moi, je m'en sers à la fois au quotidien, c'est mon appareil photo en fait, je n'ai pas d'appareil, j'ai pas de boîtier du quotidien, ça viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui je me sers de l'iPhone dans le mode, alors j'ai tenté plein d'applications tierces, je les teste aussi évidemment pour écrire éventuellement, mais pour écrire des choses dessus, mais finalement, je dois le dire, je suis toujours revenu à l'application native. D'Apple, tout simplement parce que elle est simple, elle est accessible immédiatement, et finalement je rêve d'un switch, moi, d'un simple switch qui permet de passer d'un mode du quotidien à un mode un peu plus pro.
T'as eu un peu ça avec l'application Final Cut qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, la Final Cut Camera, mais c'est pas vraiment pour la photo, c'est plus pour la vidéo.
Plus pour la vidéo, oui, bien sûr, exactement. Hein, et je rêve de la même chose pour la photo. Alors, on se dit, on se demande pourquoi est-ce que c'est pas arrivé depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça, d'autant plus que Apple a accès en priorité à toutes les données du capteur, ça paraît pas fou de proposer une interface qui va permettre d'accéder au réglage de la photo, simplement, que ce soit la vitesse d'obturation, les ISO, et même la compensation d'ouverture, etc. Donc, c'est un peu bizarre. Après, c'est sûr qu'on a heureusement une offre assez pléthorique sur l'App Store, hein, c'est un peu ce qui fait le succès de l'iPhone en même temps. Mais voilà, moi, de mon expérience personnelle, j'en ai essayé plein, et je suis finalement toujours revenu à la simplicité de l'application native.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications photos sur l'App Store. Raphaël, toi, en tant que développeur d'une application photo, vous avez quelle relation avec Apple ? Est-ce que iOS est une bonne plateforme pour ce type de projet ou ils vous mettent des bâtons dans les roues un petit peu ?
Oui, bon, alors, on a une longue relation avec Apple, hein, donc ça fait 17 ans que la société existe. Ouais. Donc on en a vu passer un peu de toutes les couleurs au travers des années. Il faut savoir, la plateforme iOS, iPhone, c'est une plateforme techniquement très, très évoluée et avec beaucoup de possibilités pour les développeurs comme nous. Il y a eu, bon, la photo s'est arrivée doucement, je vais dire, dans l'iPhone. Hein. Le capteur était très petit, les photos n'étaient pas de très bonne qualité. Mais donc, il y a eu, bon, ça a évolué un peu de manière continue. Je dirais, en 2015, ils ont sorti l'iPhone 6S, qui était le premier iPhone qui donnait accès au RAW, en fait, hein, aux données brutes. C'est un capteur 12 mégapixels, hein, la première fois que ce capteur est sorti. Et donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on a un peu pris la décision de démarrer le projet Hydra 2 avec des possibilités plus grandes, puisqu'on avait accès aux données du capteur. Alors après, bah, il y a eu 2018, l'iPhone XS XR, avec donc aussi un capteur 12 mégapixels, donc ça c'est resté assez longtemps, mais avec des capacités de calcul neuronal, la puce ANE, hein, l'Apple Neural Engine, qui offrait quand même une puissance de calcul assez phénoménale. Et l'iPhone reste une plateforme très très puissante pour faire du calcul par IA on-device, hein, donc sur l'appareil en lui-même. Et voilà, donc ça c'est très bien. Alors, ce qui s'est passé plus récemment avec Apple, donc ils ont sorti en 2022 l'iPhone 14 Pro avec le premier capteur quad pixel, donc qui peut shooter en 48 mégapixels. Donc le quad pixel, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais donc une matrice normale de Bayer, on a rouge, vert, bleu, donc ils sont imbriqués, donc on a pour un groupe de 4 pixels, on a un rouge, deux verts et un bleu. Et le quad pixel, donc ils ont redivisé en 4 chacune des couleurs, si vous voulez. Donc ça augmente la résolution spatiale, mais ça demande un traitement particulier pour en tirer une qualité d'image importante. Ouais. Et alors, nous, ce qui nous embête depuis l'arrivée de cet iPhone-là, c'est que depuis 2022, on n'a pas accès aux données brutes du capteur quad pixel. Et donc ça nous bloque, ça veut dire... On doit prendre la qualité de photo qui sort de chez Apple. On ne peut pas proposer un développement photographique alternatif. Voilà. Et donc, je ne sais pas, on va peut-être s'étendre sur cette discussion-là. Nous on a fait une demande en interopérabilité à l'Europe par rapport à ça. Okay. On aimerait avoir des solutions parce qu'on a un bon capteur qui est là, mais on ne peut pas... On doit l'exploiter comme si c'était un 12 mégapixels, alors qu'il y a quand même... Quand c'est bien éclairé, il y a moyen d'en tirer des choses... assez chouette, voilà.
Oui, c'est marrant parce qu'en fait, à ma connaissance, c'est exactement pareil côté vidéo, hein, le log, Apple, à ma connaissance, se réserve l'accès à l'intégralité des données du capteur. Donc en fait, un log, il est développé par chaque constructeur, hein, et chaque éditeur, là, en l'occurrence pour l'iPhone. Donc en fait, le log d'Apple ne sera pas le même que le log de Blackmagic, par exemple, ou le log d'un autre éditeur. Mais a priori, c'est comme pour le RAW, c'est-à-dire que Apple se réserve la meilleure qualité, finalement, de ces données brutes, et pour autant, ne propose rien. En face, qui soit cohérent, parce qu'on peut, on a accès au log d'Apple maintenant dans l'appli native, mais il n'y a rien qui va avec. Voilà, il n'y a pas tous les réglages auxquels on s'attend quand on tourne en log.
Oui, c'est un peu décevant en effet, hein, parce que on a des appareils extrêmement puissants et de grande qualité. On aimerait faire plus avec. Bon, après on peut réfléchir à pourquoi ils font ça. C'est sans doute pour vendre l'appareil suivant qui aura une meilleure qualité d'image et donc qui sera pas disponible sur le modèle d'avant. Sachant que le hardware n'évolue plus beaucoup parce qu'on arrive à des limites physiques. Pour eux, c'est une garantie, peut-être, c'est une hypothèse, hein, mais de continuer à vendre les nouveaux modèles pour les meilleures qualités d'image qui sont plus dues aux innovations software que hardware. Mais voilà, donc après, ça nous complique un peu la vie et peut-être à d'autres éditeurs aussi, à tel point qu'on commence à réfléchir à peut-être aller vers d'autres plateformes. On a commencé à explorer un peu Android avec... leur caméra 2 API, qui ont des choses assez sympas aussi. Bon, après, c'est un tout autre environnement. Et voilà, je ne sais pas si on est prêt à faire le saut, mais voilà, c'est un point de discussion. Ça fait 2 ans qu'on attend.
Ok, parce que chez Creacid, vous n'avez aucune application sur Android pour le moment ?
Non, on n'a pas d'application sur Android. Voilà, c'est comme parler deux langues différentes, hein, donc c'est compliqué. Mais voilà, après, on a une forte envie d'innover et on doit aller là où l'innovation est possible. Voilà,
ça c'est... Oui, bien sûr. Ouais. Et Apple, vous les avez contactés directement ? Enfin, ils ont eu une réponse par rapport à cette demande ?
On a eu des échanges avec Apple au niveau des teams caméra il y a longtemps, hein, à la sortie de l'iPhone 14, hein, donc en 2022. Ouais. Bon, ils ont répondu qu'ils étaient conscients de notre demande. Ouais. Voilà, et puis avec le DMA qui est sorti début de l'année passée, en 2024, bah, là on a directement... était vers cette demande, et donc ils sont un peu contraints de répondre, mais ils répondent toujours un peu à côté de la question, et bon, ils essaient de gagner du temps peut-être. Maintenant ça va peut-être s'ouvrir, hein, vu les Je vais dire, l'Europe veut qu'on puisse avoir de la compétition à tous ces niveaux-là, donc que ce soit les capteurs NFC, enfin, les puces NFC pour le paiement, que ce soit le micro pour l'assistant ou peut-être la photographie, ben, voilà, l'accès au hardware est important pour que les éditeurs software puissent faire des bons produits. Voilà.
Ok, et c'est peut-être un peu naïf, mais vous avez contacté d'autres éditeurs d'applications un peu du même genre, peut-être pour faire passer le message ensemble.
J'ai eu une tentative, mais donc en 2022, mais j'ai pas eu de mouvement. Il faut savoir que dans les éditeurs d'applications photo, beaucoup innovent sur l'ergonomie en fait, et ne s'intéressent pas forcément à la capture au traitement d'image bas niveau. Donc il y en a certains qui le font quand même. Il y en a qui ont arrêté d'ailleurs de développer sur iPhone, mais c'est difficile de créer un mouvement parce que les développeurs n'aiment pas trop se plaindre vis-à-vis d'Apple. Voilà, ça c'est un peu compliqué et c'est assez spécifique aussi comme domaine.
D'accord, ouais. La grosse nouveauté de l'iPhone 16 Pro, ça a évidemment été l'arrivée d'un bouton commande de l'appareil photo. Nous, à la rédaction, on n'a pas vraiment été séduits. Il y a deux personnes qui ont des iPhone 16 Pro et ils s'en servent soit pas, soit juste comme raccourci pour ouvrir l'app. Olivier, tu as pu l'essayer ?
Oui, je l'ai pris en main. J'étais très très enthousiaste hein, par rapport à ce nouveau bouton, tout simplement parce que pour moi, ça reste un des gros freins de la photo sur l'iPhone, c'est l'ergonomie. Le form factor d'un smartphone n'est pas adapté pour la prise de vue, que ce soit la taille de l'écran en plein soleil, que ce soit l'accès aux fonctions avec des doigts qui vont traverser l'écran, etc. Et puis évidemment, ça dépend aussi de la taille de l'écran, etc. Donc en fait, quand j'ai vu arriver ce bouton, je me suis dit, enfin, on va pouvoir récupérer une ergonomie qui ressemble à celle qu'on peut avoir sur un appareil, sur un boîtier traditionnel. J'avais avant ça testé des... J'avais écrit un article hein, d'ailleurs sur une poignée qui permettait de récupérer un peu un bouton, un bouton physique. Voilà, il y a des choses plus ou moins sophistiquées qui se font comme ça. Alors donc ce bouton, évidemment, je l'ai pris en main et évidemment, comme à peu près tout le monde, j'étais extrêmement déçu par son mode de fonctionnement. Je pense, ça reste que mon avis, mais d'après la petite prise en main que j'ai faite, ce bouton fait trop de choses. On lui demande beaucoup trop de choses. Sur un appareil traditionnel, on va avoir accès à au moins deux boutons et deux molettes cliquables pour faire tout ce que veut faire ce bouton. Donc en fait, ça va passer donc par des appuis plus ou moins importants, par des doubles appuis, etc. Et en fait, on s'en sort pas. C'est une espèce de l'idée est excellente de vouloir externaliser un peu les actions. En revanche, à mon sens, il faut reprendre toute l'UX, quoi. C'est pas bon. Alors, je ne sais pas s'ils trouveront une solution, hein. Mais je trouve l'idée bien, l'idée d'externaliser un peu les fonctions, qui sont le déclenchement, l'accès au zoom, l'accès au shutter, etc., aux ISO, etc. Ça, pour moi, c'est une excellente idée. Puis, il n'y a plus besoin de mettre le doigt sur l'écran, plus besoin de traverser l'écran avec sa main, etc. Pour moi, c'est vraiment une étape importante. Après, voilà, l'expérience est dramatique.
Et toi, Raphaël, tu as pu l'essayer un petit peu ? C'est quelque chose que vous exploitez avec Hydra ?
Oui, donc mon collègue Buñuel a l'iPhone 16 Pro, et donc on a voulu le supporter, hein, puisque c'est dédié à la photographie, donc on a ajouté ces fonctions-là dans Hydra. Moi, pour l'avoir essayé, je rejoins Olivier, hein, donc il y a beaucoup trop de fonctionnalités liées à ce bouton, et il y a un problème de sensibilité, donc pour accéder à un menu, il faut faire un demi-clic ou puis si on fait un clic trop fort, on shoot. Et c'est très sensible. Il y a des mouvements de swipe hein, pour aussi naviguer. On a l'impression comment dire, l'ergonomie sur l'écran tactile est plus facile. Voilà, si on a beaucoup d'options, bah on appuie au bon endroit sur l'écran et donc ça se passe tout seul. Et d'ailleurs, bon, c'est un petit peu quand on a réfléchi à ce qu'on allait faire avec Hydra, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On a un mode advanced, donc manuel, on appelle ça, donc où on expose justement tous les réglages, le temps d'exposition, le focus, ce genre de choses-là. Mais on a décidé volontairement de ne pas exposer ces réglages-là dans le bouton. Le nouveau bouton de l'appareil photo, ouais. Parce qu'ils étaient mieux exprimés dans l'ergonomie de l'application. Ouais. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des fonctions qui étaient un peu cachées dans l'interface d'Hydra, donc qui étaient dans des sous-menus. Là, ouais. Par exemple, le retardateur ou des choses comme ça. Et donc là, ça permet d'éviter de ne pas rentrer dans un menu. Mais en restant dans l'écran de shoot, en fait, via le bouton, on peut aller changer ces réglages-là sur la qualité d'image ou des choses comme ça. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose qui apportait quand même une utilité. Moi, je dirais qu'il y a quand même un petit syndrome touch bar sur ce bouton. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de pousser quelque chose... mais il y a un rejet parce que voilà, il y a moyen d'en faire quelque chose qui serait utile, je pense, mais il faut pas vouloir le pousser à tout prix et vouloir mettre trop de choses dessus parce que là ça va être contre-performant. Mais voilà, des passionnés pourraient en tirer quelque chose, je pense, mais des monsieur tout le monde qui veut de temps en temps shooter, bon, ça demande un apprentissage qui est beaucoup trop complexe, en fait. Voilà.
Moi, je trouve ça d'autant plus décevant que, pour moi, ce bouton, il incarnait, en tout cas sur le papier, le meilleur des deux mondes. Et en fait, ce que je vais m'expliquer, c'est... j'ai testé plein de poignées externes, moi. Pour moi, ça reste vraiment aujourd'hui le plus adapté à la photo. Rajouter une poignée qui va donner accès à un bouton, deux boutons, à une molette, etc. Il y a un certain nombre de fabricants qui le proposent aujourd'hui sur le marché. Il y a Leica qui vient de sortir une petite poignée de ce type-là. C'est vraiment, pour moi, le plus ergonomique, mais avec un énorme problème, c'est que, c'est très souvent dépendant d'une batterie, donc c'est un appareil qu'il va falloir recharger, et ensuite, c'est plutôt volumineux, ça prend de la place, on ne peut plus mettre le téléphone dans la poche comme on le mettait avant, voilà, donc il faut le séparer de l'appareil, on va l'oublier, on va oublier de le prendre, etc. Donc, quand j'ai vu ce bouton, je me suis dit « Ah, top, Apple va réunir le meilleur des deux mondes. Un bouton à l'extérieur, qui n'a rien à voir avec l'écran, et puis rien à trimballer à côté. » Donc voilà, c'est d'autant plus décevant. Et pour l'anecdote, Canon a tenté il y a quelques années, en 2018, avec les OSR, ils ont remplacé le joystick qui permet de bouger la mise au point. Ils l'ont changé par une petite barre tactile aussi, qui a fait un flop monstrueux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est alors au début on s'est dit tout le monde est habitué au joystick, donc c'est une question d'habitude, on va prendre nos marques, etc. Et puis en fait, c'est cette barre tactile, elle demandait aussi des appuis plus ou moins longs, plus ou moins appuyés, etc. Plus ou moins à droite ou à gauche, et en fait la barre n'a jamais été capable d'interpréter le bon mouvement, quoi. Donc tout le monde l'a.
Oh, pardon.
Vas-y.
Oui, je disais, c'est un peu comme les voitures, en fait. Hein. Dans les Tesla, ils ont tout mis en tactile. Ouais, et les gens se plaignent de ça. Il n'y a pas de retour. On a besoin de pouvoir accéder à un bouton, sentir dans quel état il est, sans regarder. Et ça, on le perd. Hein. Et la touch bar, c'était le même problème. Ici, ce bouton-là, il y a un peu de ça aussi. Voilà. Oui, je voulais aussi rebondir sur le fait qu'il y a les boutons, il y a tout un historique hein, chez Apple avec l'appareil photo, parce qu'au début, voilà, certains développeurs, et on l'avait fait aussi, on a mis la possibilité de shooter avec les boutons volume, volume plus, volume moins. Bon, c'était très complexe, hein, parce qu'il y avait des tas de comportements qui n'étaient pas... Voilà, si le volume était au maximum, il fallait le réduire avant de démarrer l'application, des choses comme ça. Et Apple nous a interdit les développeurs de le faire, puis ils l'ont fait eux-mêmes dans leur appareil photo, puis après ils ont plus rien dit aux développeurs, donc on a compris qu'on pouvait aussi le faire. Après ils ont introduit le bouton action, donc qui était un autre bouton sur l'iPhone, et maintenant enfin, ils sortent un bouton dédié à la photo, quoi. Donc, il y a vraiment tout un... Bon, j'espère que maintenant que ça ne va pas être les nouveautés de... c'est chaque fois un nouveau bouton chaque année. Ouais.
Enfin, voilà. Et Apple vous ont laissé la main directement dessus? Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce bouton-là ou c'est un peu compliqué?
Non, il y a des API bien précises, hein, donc ouais. on doit respecter ce qui est prévu. Après, bon, quand c'est pour créer un menu, dans le menu, on met un peu ce qu'on veut, mais voilà. Par contre, c'est vrai qu'avec mon autre collègue Benoît, on s'était dit tout de suite, parce que sur les réflexes, vous savez, sur les appareils photo, quand on presse à moitié sur le bouton de capture, on bloque le focus. Ouais. Et après, quand on appuie à fond, on déclenche vraiment la photo. Et on s'était dit, ça, c'était vraiment peut-être un usage intuitif qu'ils auraient pu mettre sur le bouton. Et je pense qu'ils ne l'avaient pas à la sortie, qu'ils l'ont peut-être ajouté par après. Mmh. Et donc, nous, ça aurait été peut-être quelque chose aussi qu'on aurait eu envie de mettre dans l'application. Je ne sais pas si techniquement c'est possible aujourd'hui.
Je crois que c'est venu après, non ? C'est pas un truc qu'ils ont rajouté sur la 18.1 ou 18.2, un truc du genre ?
Oui, oui, je pense qu'on en avait reparlé. Ouais. Mais voilà, donc là, contrôler du hardware en direct, ça c'est plus complexe. Si c'est pas prévu par l'API d'Apple, si on a des bonnes idées de ce type-là, on doit avoir le support de l'OS pour l'implémenter, en fait. Hein.
Ouais. Olivier, est-ce que tu retouches tes photos sur iPhone ? Est-ce que la possibilité de l'iPhone 16 Pro de retoucher les filtres a posteriori, c'est quelque chose qui t'intéresse ?
Oui, alors moi, historiquement, mais bon, après, moi, je suis pas monsieur tout le monde, j'ai toujours shooté en RAW. Enfin, en tout cas, depuis que c'est possible, j'ai toujours shooté en RAW, et je me laisse toujours une petite marge donc, de correction. Mais ça m'oblige évidemment à les corriger un petit peu avant de les partager ou de les envoyer. Et donc, d'abord, j'ai toujours donc utilisé des applications tierces la plupart du temps. Je me souviens très longtemps, moi j'ai utilisé Adobe évidemment, mais j'ai utilisé Snapseed aussi pendant très longtemps. Mais encore une fois, voilà, j'ai dit un petit peu la même chose qu'au début de notre conversation, c'est que j'en reviens toujours à l'application native. Voilà, par simplicité d'usage, tout simplement. Et donc je suis heureux que Apple ajoute en interne, de façon tout à fait native, ces filtres. Alors ces filtres, moi je les trouve intéressants parce que c'est un peu l'antithèse d'Instagram. Instagram, tu sais, ils ont tout. Leur succès repose quand même en grande partie sur leurs filtres, qui, à mon sens, bousillaient les photos. On donnait l'impression. Ils ont voulu faire croire que n'importe quelle photo, même ratée, pouvait devenir une œuvre d'art, alors qu'en réalité, ça détériorait beaucoup la photo, et notamment, je pense, au tempo. Donc, a priori, ces filtres-là font attention à ça. Ils tiennent compte des tempos. Et vu la souplesse du système, j'ai un peu peur que ça ne fasse pas l'unanimité. J'ai un peu peur que ça ne soit pas utilisé par l'ensemble des utilisateurs de l'appareil photo, et que ça se limite à une espèce de niche de passionnés de photos, qui vont, eux, pour le coup, être, à mon avis, très intéressés. Hein. C'est un phénomène qu'on retrouve dans les boîtiers photos. Hein. Évidemment, et Fuji, je pense évidemment, notamment à Fuji, qui construit une grosse partie de son succès là-dessus. Hein. Le succès est tellement important vis-à-vis de ces filtres qu'ils l'ont maintenant implémenté sur une roue dédiée sur le boîtier, donc sur les nouveaux appareils. Donc donc je pense que ça peut très très bien marcher. Moi, ça me semble extrêmement, quand je dis souple, en fait c'est complexe, c'est-à-dire que les possibilités sont quasi infinies. Donc moi je trouve ça intéressant, ça peut un peu faire partir dans tous les sens, encore une fois pour une utilisation au quotidien où il faut faire vite et bien. Donc je pense que c'est pas adapté pour ce genre de type de photo. Mais je pense que ça peut vraiment beaucoup intéresser les amateurs de photos. Mais encore une fois, c'est une niche, hein, mais elle est importante, cette niche, quand même.
Raphaël, les iPhones mettent le paquet sur l'IA depuis quelques temps. Sans même parler d'Apple Intelligence, ça fait quand même des années qu'on a des puces dédiées au machine learning, tout ça. Vous utilisez toute cette puissance dans Hydra ?
Oui, tout à fait. Mais, donc, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le capteur RAW, c'était à partir de 2015. Mmh. Et l'IA, avec CoreML et les puces dédiées, bah, c'était 2018, hein, donc avec l'iPhone XR, XS. Mmh. Quand on a sorti Hydra 2, on a d'ailleurs on a dû faire un choix parce que donc c'était basé sur les technologies d'intelligence artificielle, mais allez, une grande partie du parc installé d'iPhone n'avait pas la puce ANE d'Apple. Et donc on a dû dédoubler un peu les architectures neuronales, donc on a une version pour faible puissance de calcul et une version pour forte puissance de calcul, et on a gardé cette subdivision, donc on a une meilleure qualité d'image évidemment quand on utilise la puce Apple qui peut faire allez, 5 à 10 fois plus de calcul pour un temps de calcul qui est fixe en fait, hein. Et d'ailleurs maintenant on commence à se, parce que les puces, l'ANE, bon, chaque année elle augmente de entre 10 et 30% ses capacités de calcul, et donc maintenant on arrive à un stade avec les iPhone 16 où on pourrait imaginer d'avoir encore une architecture plus complexe. Bon, la contrainte chez nous, c'est d'arriver à sortir une image en moins de 10 secondes. Hein. C'est déjà beaucoup. On se le permet parce qu'on est un appareil photo spécialisé. Donc, c'est pas l'appareil photo qu'on utilise pour shooter toutes ces photos. Mais si on est face à un beau paysage, qu'on veut un beau souvenir, qu'on veut une image avec un piqué plus fin, là, on peut se permettre de shooter en 10 secondes, voire en utilisant un trépied, et d'aller chercher un peu plus de grains. Et donc, voilà, mais le CoreML, voilà, c'est vraiment une très belle technologie. Il a fallu le temps de la maîtriser, hein, parce qu'au début, c'était les outils d'entraînement TensorFlow et PyTorch ne le supportaient pas ou très très mal. Et donc, on a dû faire des convertisseurs pour exprimer les réseaux de neurones entraînés sur l'environnement Apple. Mmh. Voilà, beaucoup de complexité, mais ça en vaut la peine. Encore aujourd'hui, hein, quand on fait des... On essaie de faire tourner du TensorFlow Lite sur une plateforme Android, on voit que il y a une différence allez, qu'on pourrait qualifier peut-être de 5 fois la vitesse de calcul qu'on peut avoir chez Apple. Et chez Apple, c'est sur tous les iPhones depuis 5 ans, c'est disponible. Alors que sur Android, il faut aller sur le flagship et chaque marque a un peu ses spécificités. Donc voilà, c'est vraiment des outils extrêmement puissants et qu'on apprécie beaucoup.
D'accord. Olivier, l'IA, ça t'évoque quoi toi en tant que photographe pro ? Les avancées technologiques font qu'on en vient à se poser de plus en plus souvent la question qu'est-ce que c'est qu'une photo ? Tu vois un intérêt, toi, dans les IA génératives, ou t'es catégoriquement contre ?
Alors moi, je suis hyper enthousiaste par rapport à l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative. Hein. Ouais. Mais je fais quand même la part des choses entre la génération d'images, donc ça, je l'exclus. Du domaine de la photo, pour moi c'est pas de la photo. La photo, c'est certes, ça reste de la création graphique extrêmement intéressante, qui est un nouveau chemin pour les créateurs. Donc voilà. Mais pour ce qui est de la photo, il y a la prise de vue et il y a l'édition. Pour la prise de vue. Bon, moi je suis un vieux photographe, hein, donc je suis plutôt la team Roland Barthes, Susan Sontag et compagnie, qui considèrent qu'il y a toujours un lien direct, voilà, entre ce qui est représenté par la photo et ce qui a été, quoi. Voilà, il y a entre la réalité et la représentation. Donc pour moi, il faut toujours qu'il y ait un lien, même si, encore une fois, on peut modifier assez profondément une photo, on peut même la truquer. La modification et le trucage ont toujours fait partie de la photographie dans toute son histoire. Hein, à la fin du 19e siècle, les spirites ont tenté de faire croire que l'apparition d'esprit sur les photos était la preuve scientifique que les esprits existaient et que le fantôme existait. Ça a donné lieu à un énorme procès en France où tout le monde a reconnu que c'était une énorme escroquerie. Alors, ça n'a pas empêché les spirites de continuer, mais dans une forme beaucoup plus récréative. Donc c'était du divertissement, c'était de la création. Et donc moi je trouve ça, je suis vraiment admiratif de ça et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. En revanche, pour la photo, pour moi il n'y a pas de débat. Soit on s'en sert pour la prise de vue et on s'en sert depuis des années, hein, même sur les boîtiers traditionnels, hein, pour la reconnaissance de sujet, pour la reconnaissance de scène. L'iPhone le fait très bien et moi je suis très content que l'iPhone puisse faire la différence entre une scène de montagne et une scène de plage. Et que l'appareil automatiquement va modifier ses réglages. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Encore une fois, pour la reconnaissance de sujet, moi j'ai hâte que l'iPhone s'y mette parce que je sais pas s'il le fait vraiment. On en reparlera peut-être un petit peu plus, peut-être si on parle du futur et surtout des futurs des optiques. Donc voilà, donc pour ce qui est de la prise de vue, pour ces deux domaines-là, la reconnaissance de sujet et la reconnaissance de scène, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Et pour ce qui est de l'édition, eh ben moi je suis pour, encore une fois, je ne suis pas contre qu'on retire une personne, qu'on retire un objet d'une photo, qu'on modifie la couleur du ciel, etc. Mmh. En revanche, j'aimerais que l'iPhone propose une position, on va dire, documentaire, une position journaliste, hein, qui va peut-être taguer profondément, qui va rajouter des métadonnées, de façon à ce qu'on sache quelle modification a été faite et quel élément a été éventuellement ajouté ou retiré. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, moi, je voudrais que l'utilisateur ait le choix. Je suis pas, évidemment, je suis pour que les créateurs s'expriment pleinement. Donc, je suis pour que ces outils soient présents sur l'iPhone de façon même plus importante qu'aujourd'hui. Mais j'aimerais que ce soit identifié. Voilà. Je voudrais que la personne qui veut que son travail soit considéré comme fiable, digne de confiance, je veux que cette personne puisse le dire, puisse l'attester. À travers, encore une fois, les métadonnées de ces photos. Alors évidemment, ça dépend pas que d'Apple, hein, c'est toute l'industrie qui doit s'y mettre, mais j'aurais été heureux que Apple fasse un pas de côté quand Samsung a présenté ses premiers outils de création qui permettent de modifier très profondément une photo sans qu'on le sache en fait, hein, avec
qui
juste
qui réinsérait la lune.
Oui. Alors ça c'est encore pire. Alors ça c'est la prise de vue. Non, évidemment ça j'ai été choqué par ça. Bien sûr j'ai été choqué parce que pour moi c'est de l'escroquerie, l'histoire de la lune. C'est prendre les gens pour des idiots parce que en fait évidemment les gens prennent la lune ou autre chose, hein, et en fait c'est pas leur lune qui est, enfin si j'ai bien compris, hein, c'est pas leur lune qui était affichée sur la photo. En gros,
oui, c'est un modèle, j'imagine, c'est un modèle qui est réinséré dans l'image, quoi, en fait. Hein,
je trouve ça totalement scandaleux et j'aurais aimé que Apple fasse un pas de côté par rapport à ça et dise voilà, nous, l'iPhone est extrêmement répandu chez les journalistes, chez les documentaristes. Donc je pense que ces gens-là ont besoin d'outils qui va permettre d'attester de la réalité de leur travail et de la réalité de leur prise de vue. J'avais écrit un article il y a quelque temps sur l'intelligence artificielle et j'avais pris l'exemple d'un journaliste qui s'appelle Michael Christopher Brown qui était parti en Libye ou en RDC avec son iPhone, bah, tout simplement parce que c'était l'outil qui est adapté au projet, hein, qui était discret, qui passait pas pour un journaliste. Une personne comme ça a besoin d'un iPhone. Et ben, je pense que ce genre de projet a besoin aujourd'hui que les photos soient authentifiées. Il y a un certain nombre de fabricants de boîtiers qui s'y mettent, très peu. C'est très lent. Ça aurait été sympa que Apple le fasse. Encore une fois, l'iPhone est extrêmement répandu dans les rédactions. Je suis en train d'écrire un article sur M6 qui l'utilise non pas pour des raisons économiques, mais pour permettre un nouveau type d'écriture. Voilà.
Si on je a, peux on a... rebondir.
Vas-y, 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 bien sûr, bien sûr.
Oui, pour rebondir sur le côté génératif, en fait. Hein, donc, ça arrive sur des choses un peu grossières comme la Lune. Bon, on en a parlé. Mais il faut savoir, nous, par exemple, allez, sur Hydra, quand on a une image qui est fort bruitée, donc déjà, à la base, le capteur, donc un capteur. Donc on n'a pas la couleur rouge sur tous les pixels, on l'a sur un pixel sur 4, hein, donc ça veut dire il faut recréer la valeur rouge sur les 3 pixels manquants. Donc il y a déjà dans le dématrissage à la base il y a déjà une fonction de génération. Et ça s'amplifie. Par exemple, quand on veut faire un zoom sur une photo, on doit recréer du détail. Mais donc si on voit un visage en petit qu'on ne sait pas reconnaître, quand on va l'agrandir x2 ou x4 ou x8, l'intelligence artificielle peut être amenée à recréer du détail qui n'existe pas, ou en tout cas qui ne correspond pas à la réalité. Et on voit bien que la frontière est un petit peu floue, parce que si on agrandit par deux, on insère, pour un pixel, on en insère trois nouveaux. Donc là, c'est pas forcément vraiment du trucage, ou en tout cas, c'est... Mais par contre, quand on va le faire x16, un visage qu'on ne reconnaît pas, on va le reconnaître. Mais donc, c'est de la vraie synthèse d'image à ce moment-là. Et donc, cette frontière est floue. Et donc, mettre un label, ça peut être complexe aussi. Hein, donc, à partir de quand est-ce qu'on met le label synthétique ou réel, en fait? Voilà, il y a cette dimension-là, c'est que je voulais souligner aussi.
Oui, bien sûr, et d'ailleurs, Instagram a eu quelques soucis avec ça, puisqu'à un moment donné, ils ont mis ce fameux tag, cet avertissement au-dessus des photos, puisque c'était au début, c'était information sur l'IA, etc. Alors qu'en réalité, c'est la plupart des photos que moi je voyais avec cet avertissement n'étaient pas vraiment concernées par l'IA, simplement ils étaient sans doute passé par un logiciel qui permettait de modifier peut-être un ton, de modifier peut-être les détails, etc. Et que ça utilisait des outils d'intelligence artificielle. Et à partir de là, l'avertissement d'Instagram pouvait laisser penser que c'était une image artificielle. Voilà. Donc oui, bien sûr que c'est un problème qui n'est pas simple.
Bah oui, on est d'accord. Oui, tout à fait. Oui.
Raphaël, l'Hydra est plutôt pensé pour la prise de photo. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à la vidéo?
Oui, alors, mais en fait, la version 1 d'Hydra en 2015, elle faisait du shoot vidéo. Et on appliquait un effet HDR que je dirais light. Donc, en fait, c'était pas du vrai HDR. Mais on augmentait les contrastes pour donner une impression HDR, éclairer un petit peu plus tout ce qui était sombre dans la photo, avec un contraste amélioré. Mais on a arrêté le mode vidéo depuis la version 2, parce qu'il n'y avait plus vraiment de plus-value. Et alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu du vrai HDR qui arrivait dans la vidéo sur iPhone, avec l'arrivée aussi des écrans qui sont capables d'afficher des plus hautes lumières, hein. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, hein, dans l'album photo, quand vous shootez en vidéo sur votre iPhone et que vous l'affichez, vous voyez parfois des lumières très très intenses dans les vidéos. Ça, c'est le vrai mode HDR des nouveaux iPhones depuis quelques années maintenant. Donc voilà, après, donc, par rapport à Hydra, on a plutôt laissé tomber la vidéo. Par contre, comme j'ai dit, on continue à le faire en post-processing sur Emulsio. Et là, on va d'ailleurs y revenir cette année. On va introduire de l'intelligence artificielle dans Emulsio, mais ça, je pense qu'on en parlera à une autre occasion.
Olivier, l'arrivée de l'iPhone a mis un sacré coup au marché de l'appareil photo traditionnel. On en est où en 2025? Je me souviens avoir écrit un article il y a quelques années sur le début de la fin de production des réflexes.
Oui, alors ça, c'est sûr que indéniablement, l'iPhone et ses concurrents d'ailleurs, hein, ont eu un effet assez phénoménal sur le marché de la photo. Moi je me souviens, donc en 2007, quand l'iPhone sort, j'ai fait la recherche, il y a eu 158 appareils compacts qui ont été présentés cette année-là, par l'industrie de la photo. Alors, des appareils compacts, hein, c'est les petits appareils qu'on avait quand on prenait des photos en souvenir de famille ou en vacances, etc. Entre 2016 et 2020, il y en a à peu près 10 par an. Donc, on voit déjà la différence. Et en 2004, il y a 3 appareils qui ont été présentés. Alors quand je parle de compact, c'est des appareils qui ont un capteur à peu près 1 pouce et qui ont des objectifs qui ne sont pas interchangeables. Hein. Donc c'est les petits appareils photo, dont certains sont extrêmement puissants, hein, proposent une qualité très, très intéressante. Voilà, donc on voit évidemment l'iPhone a remplacé ce type d'appareil, c'est pour ça que je prends cet exemple, et ouais. A fait extrêmement mal évidemment aux boîtiers plus professionnels. Là aussi, hein, les chiffres sont éloquents. Hein, en 2000, je crois dans mes notes, en 2010, il y a 121 millions d'appareils qui sont vendus. Tout format confondu. En 2024, nous sommes à 8 millions. Donc, ouais. On voit bien que le phénomène est extrêmement brutal. Évidemment, l'iPhone n'y est pas pour rien. Alors, quand je parle 120 millions et 8 millions, c'est toute caméra confondue, sachant que sur les 120 millions, il y a peut-être 95 millions de compacts. Hein. Donc, on voit quand même, on voit un peu l'échelle. Alors, par contre, quand même, depuis quelques années, il faut quand même reconnaître que l'industrie de la photo repart, à la fois en volume, mais surtout en chiffre d'affaires. Et puis, évidemment, c'est ça l'important, parce que le drame dans ce phénomène, c'est que cette chute de vente en volume a évidemment drastiquement fait baisser les revenus et donc les ressources en recherche et développement. Et donc, ça, c'est un cycle malheureusement vicieux, hein, puisque moins il y a d'argent, moins on en a pour améliorer les choses, et moins on améliore les choses, et moins on vend. Donc évidemment, ça a été un cycle assez dramatique. Et puis, donc l'industrie s'en sort quand même pas trop mal en ayant misé sur à la fois le haut de gamme et puis l'hybride depuis les années 2015, 2016, 2017. Donc tout ça a permis à la fois de vendre des appareils plus sophistiqués, donc plus chers, et de relancer un peu la machine. Et ça marche, hein. Ça marche. Depuis 2022, 2023, 2024, les chiffres repartent à la hausse. Alors là, ces dernières années, c'est même les volumes repartent à la hausse. Hein. Alors c'est aidé par certains compacts qui marchent très très bien. On parlait de Fuji tout à l'heure, qui cartonne avec ses appareils compacts à objectif non interchangeable. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, il y a un grand responsable de Nikon qui disait que l'iPhone avait sans doute sauvé l'industrie de la photo. Okay. Alors, je ne sais pas s'il disait ça un peu par provocation ou pour qu'on retienne un peu ce qu'il disait, mais moi, je suis quand même un tout petit peu de son avis. L'iPhone a quand même mis un appareil photo dans les mains de millions, de centaines de millions de personnes, peut-être à travers le monde. Et parmi toutes ces personnes, évidemment, certaines se sont révélées plus douées que d'autres et ont découvert qu'ils faisaient de bonnes photos. Et à un moment donné, quand on parlait de l'ergonomie tout à l'heure de l'iPhone, quand on arrive au bout de cette ergonomie, quand on arrive au bout des limites du smartphone, et je pense notamment aux photos de sport, aux photos de nature, quand on arrive au bout de ça, bah, logiquement, on passe à l'appareil plus traditionnel. Et on découvre c'est les nouvelles libertés que procure ce type d'appareil. Donc en fait, c'est ça, le fait d'avoir un appareil sur soi tout le temps, tous les jours, ça a sans doute révélé la capacité de certains
des vocations.
Voilà, sans forcément créer des vocations. C'est qu'à un moment donné, la plupart des photographes font ça, c'est un hobby. En fait, hein, c'est vraiment une activité, c'est un plaisir. Il y a le plaisir du shooting. Encore une fois, l'ergonomie de l'appareil permet une immersion totale dans l'activité. C'est une sensation de contrôle. C'est vraiment intéressant. La photo, c'est pas juste prendre une photo et puis voir le résultat sur un écran. Donc, tout ça, c'est sans doute né chez beaucoup de gens à travers l'iPhone et à travers l'expérience qu'ils ont de la photo sur l'iPhone. Donc, encore une fois, ça a fait beaucoup de mal. Les chiffres sont phénoménaux. L'industrie, et puis d'ailleurs, certains grands constructeurs, on avait prédit leur disparition il y a quelques années, ils s'en sont remis malgré tout. Nikon était censé disparaître. Hein. Moi, j'étais déjà dans le... un peu dans le milieu, même sérieusement dans le milieu, dans les années 2015-2016, ont donné peu d'avenir à Nikon. Hein. Nikon, aujourd'hui, est vraiment un vrai acteur. Bon, on parle aussi de Panasonic, qui est un peu fragile aussi, etc. Donc peut-être que ça va se consolider par la disparition de certains grands acteurs, mais en tout cas, l'industrie de la photographie reprend un peu son souffle et repart, même si les volumes, évidemment, ne seront plus jamais les mêmes. Hein, on ne va pas passer de 8 millions aujourd'hui à 100 millions, c'est sûr. Mais entre la montée en gamme, la sophistication, les nouveautés, on pourra peut-être en parler après, mais c'est comme le smartphone, hein, on atteint une espèce de maturité qui freine un peu l'innovation. Et on voit bien que les constructeurs sont un peu coincés. Il n'y a plus de grande innovation. Il n'y a rien de révolutionnaire d'une année à l'autre. Mais voilà, en jouant sur l'innovation et en jouant sur les appareils de plus en plus sophistiqués, les prix augmentent et le marché suit, hein, puisque les chiffres d'affaires, que tous les constructeurs cette année sont contents. En 2000, là pour les Q3, les chiffres de Q3 2024 sont sortis et en fait ils sont tous très contents, ils sont tous très satisfaits. Ouais. Tout est en hausse, que ce soit en volume ou en chiffre d'affaires. Mais encore une fois, il faut voir ça sur le temps évidemment. C'est pas une année ou deux qui vont prédire ce qui va se passer dans les années à venir.
Raphaël, tu penses que l'iPhone peut encore s'améliorer? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'arriver du coup à une limite physique, donc sauf à vouloir faire un smartphone dans le dos, ça serait juste un énorme objectif. C'est quoi les pistes d'amélioration pour le produit au niveau logiciel par exemple?
Oui, bon, et aussi pour rebondir avec ce qu'a dit Olivier, mais la contrainte de l'iPhone, c'est la taille du capteur. Hein, c'est ça la réelle contrainte. Bon, pour l'instant, il fait 12 mm de diagonale. C'est déjà très grand pour un petit appareil comme ça. Et je pense qu'il est bloqué à cette taille-là depuis 2 ou 3 ans. Voilà, pour aller au-delà, il faut mettre un périscope, donc il faut un moteur, il faut agrandir le boîtier. Donc moi, je m'étais posé la question, donc est-ce qu'Apple veut peut-être faire un appareil photo à un moment donné qui aurait des possibilités internet et de téléphonie, auquel cas ils pourraient déployer leur innovation, parce que l'iPhone, ce qui a fait du mal aux appareils photo compacts, et pas que compacts d'ailleurs, c'est que dans des conditions un peu mixtes, en intérieur d'appartement avec un rayon de soleil, on prend une photo, il y a le mode HDR qui se met en place automatiquement sur l'iPhone, et la photo qu'on sort de là est immédiatement belle, alors que pour avoir un résultat comme ça avec un réflexe, il faut beaucoup la travailler. Même parfois, une image RAW toute seule n'a pas assez de dynamique. Donc, il faut en shooter deux. Il faut faire du mélange d'exposition. Il faut utiliser des logiciels HDR. Et donc, ça, voilà, c'est sorti c'est plus simple de sortir l'appareil de sa poche et de prendre une photo plutôt que d'aller vers une dimension de traitement d'image lourde. Et donc, ça, cette combinaison a eu raison un peu des compacts. Mais
excuse-moi, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait ça c'est à la portée de boîtiers photo traditionnels, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas là. Ils ont deux énormes problèmes par rapport aux smartphones, les boîtiers. C'est que comme tu dis, c'est la qualité au moment du shooting. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé des centaines de fois. Je prends une photo, un coucher de soleil, on va dire, au hasard, et à côté de moi, une personne prend la même avec son iPhone. Et en fait, le résultat qui s'affiche, c'est le jour et la nuit. Et évidemment, il faut être dans un certain état d'esprit pour se sentir confortable quand on est dans cette situation avec son appareil photo. Les constructeurs de boîtiers auraient eu la possibilité 1000 fois de proposer un affichage qui ressemble, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui ressemble à quelque chose de partageable immédiatement. Et en fait, j'en arrive au deuxième énorme problème avec les boîtiers, c'est la connexion, hein, c'est la possibilité de partage. Évidemment que ça fait des années qu'on devrait avoir un Wi-Fi de bien meilleure qualité sur les boîtiers. C'est terrible. On a des Wi-Fi aujourd'hui qui sont à 5, peut-être les plus modernes à 6, alors que aujourd'hui on parle de Wi-Fi 7 et au-delà. Et ça fait donc des années qu'on devrait pouvoir partager ses photos depuis son boîtier, et même les connexions via des applications, parce qu'évidemment chaque constructeur a son application, la connexion ça marche moyen quoi, hein.
Donc je te rejoins à 100%. Les deux dimensions que tu évoques, hein, donc à la fois le traitement d'image, donc pour appliquer un peu l'effet HDR, mais aussi la connectivité, ce sont deux éléments qui demandent d'avoir une stack software, donc une capacité, des API, des processeurs avec des outils de traitement d'image et des outils de réseau. Et c'est des choses que Apple a très fortement développées au cours des 15 dernières années, mais que les fabricants de téléphones, ils sont pratiquement nulle part, en fait, hein. Sauf ceux éventuellement qui mettraient Android sur leur boîtier, qui pourraient bénéficier d'une partie des stacks de traitement d'image et de réseau, eux ils pourraient faire des choses, mais les autres, refaire from scratch un système d'exploitation avec ces capacités là et tous les algorithmes qui vont avec, c'est hors de portée pour eux. Donc par contre, nous en tant que petits développeurs, ça nous intéresserait d'avoir ce genre de plateforme, parce qu'on pourrait directement déployer nos innovations en IA, en traitement d'image, sur des capteurs beaucoup plus grands, parce que les innovations qui sont faites sur l'iPhone avec des capteurs de 12 mm, je vous laisse imaginer, si on a un capteur de 1 pouce à la place, on est capable de shooter dans le noir et de voir comment en plein jour. Il y a des choses à faire et qui ne sont pas faites aujourd'hui.
Tu peux imaginer l'effet sur les gens qui aujourd'hui sont freinés par ça et ne n'osent pas passer au boîtier un peu plus sophistiqué. Parce que c'est des freins, ce partage qui n'est pas possible. Effectivement, il faudrait Android ou autre chose, effectivement, dans ces boîtiers.
Les résultats peuvent être décevants et décourager l'utilisateur, alors qu'ils ont un matériel capable d'aller shooter dans le noir que l'iPhone ne peut pas reproduire, en fait.
Voilà. Mais pour répondre à ta question, Félix, je reviens sur les évolutions possibles. Aujourd'hui, de toute façon, physiquement, sans révolution dont on n'aurait pas connaissance, aujourd'hui, si tu veux augmenter la taille des capteurs, et moi je suis pour au moins un capteur d'au moins 1 pouce dans les iPhones, tu es obligé d'augmenter la taille des lentilles. Ouais. Donc si on est prêt à accepter des lentilles encore plus grosses, on peut augmenter à la fois la taille et la définition des capteurs. Tant qu'on passe pas à une autre technologie, il y en a certainement, hein, moi je suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai déjà entendu parler de lentilles liquides qui permettent à la fois de gagner à la fois de l'espace et puis de gagner en souplesse sur la focale, hein, de permettre des focales qui seraient plus fixes comme aujourd'hui et qui seraient donc variables. En dehors de passer à une autre technologie, aujourd'hui, si on veut avoir des capteurs plus grands, mieux définis, il faut encore faire grossir les trucs, les lentilles. Est-ce qu'on est prêt à accepter d'avoir quelque chose encore plus volumineux que ce qui existe aujourd'hui? Je ne sais pas.
Ah, c'est la question, oui.
Oui, ou peut-être un photographe, lui, serait intéressé d'avoir un iPhone de ce type. Alors, moi, je vois un peu aussi le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire... parfois, j'ai l'impression, déjà dans les iPhones actuels, que les lentilles sont très grosses et volumineuses. Pour quelqu'un qui voudrait pas forcément faire des photos au quotidien, et on pourrait imaginer que la gamme soit spécialisée. Hein, il pourrait y avoir trois profondeurs. On pourrait imaginer un iPhone qui ferait 2 cm d'épaisseur, qui mettrait un capteur 1 pouce et qui, avec des objectifs interchangeables, je sais pas. En tout cas, ça ouvrirait des nouvelles possibilités.
Olivier, est-ce que Apple a une bonne avance sur la concurrence? Parce que c'est vrai qu'on voit les derniers Google Pixel ou même les Samsung, ils font des photos qui sont pas mal du tout. L'iPhone, il est plus forcément numéro 1 dans les classements des meilleurs smartphones niveau photo. T'as pu en essayer quelques-uns?
Oui, alors j'ai pris en main des Pixels, même les derniers Samsung. Bon, moi je vais être très honnête, encore une fois, je suis pas de ceux qui regardent les chiffres, voyant si la courbe de réaction. Moi je me fie à l'image, à mes yeux. Et honnêtement, aujourd'hui, pour faire la différence entre la photo d'un iPhone, celle d'un Galaxy ou celle d'un Pixel, ça commence à être un peu compliqué quand même. Moi, ce que je ressens, si aujourd'hui je pars de zéro, quel téléphone je dois choisir, je vais forcément me diriger vers quelque chose de mature. Et pour moi, l'iPhone est un appareil ultra mature, hein, du point de vue de sa construction, du point de vue de sa fiabilité, du point de vue de son écosystème, de son UX, etc. Donc, je vais forcément, parce que c'est un ensemble, oui, j'aime la photo, oui, j'aime faire des photos avec mon téléphone, mais ça reste avant tout un outil pour moi, de travail, mais un outil de communication, donc qui va me servir à plein d'autres choses. Donc, évidemment, je ne vais pas choisir comme un appareil photo. Je vais choisir quelque chose de mature. Et aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas aller vers Oppo, je ne vais pas aller vers Vivo ou des choses comme ça, ou même OnePlus, que je considère moins mature. Alors, peut-être à tort. Mais c'est vrai que je vais aller vers... je vais plutôt me diriger vers un écosystème que je considère comme abouti. Et je considère que celui des Pixels est abouti. Le Pixel 9, je crois, Pro, fait d'excellentes photos. C'est un très bon appareil photo. Et je sais que à la fois le store d'Android et puis les ressources même sur le web, quand on a un problème, etc., elles sont absolument gigantesques. Pareil pour le Samsung. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris la photo et la vidéo sur le web. Hein. C'est quand même intéressant d'avoir beaucoup de ressources. Aujourd'hui, quand on mise sur un Pixel, sur un Samsung ou sur un iPhone, on a accès à tout ça. Sans compter, encore une fois, je le répète, la maturité matérielle, la fiabilité, etc. Donc oui, aujourd'hui, évidemment, pour moi, il est évidemment pas question que je change. Hein, j'ai un iPhone depuis 2007, hein, donc ça fait bientôt 20 ans j'achète des applications, donc j'ai tout mon écosystème qui est là-dessus, il n'est pas question que je change. Mais est-ce que l'iPhone a une avance? Moi, peut-être en vidéo, je dirais, bon, c'est pas très original de dire ça. En photo, je suis pas convaincu qu'il ait une grosse. En revanche, je trouve le marketing d'Apple fantastique. Pour ce qui est de la photo, pour ce qui est de la vidéo, je trouve qu'ils font vraiment rêver, ils me font rêver. Et même si moi, jamais je n'irai chercher les ressources que eux mettent en avant dans leur communication, c'est quand même rassurant de savoir qu'on y a accès. Donc finalement, je suis un utilisateur comme tout le monde de ce point de vue-là. Donc oui, j'aime la façon dont Apple exploite la technologie qui tourne autour de la photo, parce que évidemment c'est le truc qui s'améliore d'année en année, et donc ça me plaît, ça me parle, ça me parle, leur univers me parle. Quand ils présentent les portraits, moi je fais du portrait dans ma vie professionnelle, je suis assez impressionné de voir ce qu'on peut faire avec du très grand angle, parce qu'on peut faire du portrait avec du 13 mm parfaitement, comme on peut faire du portrait avec du 14, 15 ou 16 mm avec un boîtier traditionnel. Donc moi j'aime ça. Ils le font, je sens qu'ils le font avec cœur. Et donc ça me parle. Et voilà une des raisons pour lesquelles, même si, encore une fois, c'est très difficile de voir la différence entre ce que fait un iPhone et un Pixel, évidemment, sauf si on met des instruments extrêmement sophistiqués mesurer. Hein. En tout cas, pourquoi moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de changer, et pourquoi est-ce que j'irais vers Apple si je devais repartir de zéro?
Ok. Et si je peux peut-être rebondir, donc ça, voilà, la qualité d'image, elle évolue, hein, année après année. Ce qu'on a remarqué avec certains de nos clients, c'est qu'on a un mode qui est basique, en fait, qui fait juste un développement sur base de l'image sans traitement d'image particulier sur les contrastes ou les couleurs, donc juste donner ce que le capteur donne. Et il y a des clients qui nous ont dit on veut ce mode-là à part entière parce que ça nous permet de reproduire des images un peu comme avec des couleurs naturelles comme on voit parfois sur certaines séries, comme si c'était tourné avec du film aller au cinéma, donc retrouver un peu sur un désert le jaune du désert. Alors que quand on shoot avec des smartphones, je parle au sens large, Apple ou autre, hein, on a vite des couleurs très saturées, très, très boostées par défaut. Et à une époque, quand on choisissait les téléviseurs, on allait voir dans un showroom, on voyait les TV Samsung qui avaient des couleurs hyper contrastées et tout, et donc qui ressortaient du reste, mais c'était pas forcément plus fidèle à la réalité. Et donc, oui. Et je me demande s'il n'y a pas un peu cette dérive-là quand même. Alors les gens, ils aiment bien les couleurs, ils aiment bien les contrastes, c'est beau, et c'est toujours de plus en plus beau, mais est-ce qu'on ne s'éloigne pas un peu parfois de la réalité aussi? Je pense que c'est bien de savoir ce qu'on veut, si on veut aussi une belle image ou si on veut une image fidèle. C'est tout un débat, hein, j'en suis bien conscient, mais voilà, je pense qu'il en faut pour tous les goûts aussi.
Raphaël, c'est quoi la suite pour Creaseed? Est-ce qu'il y a des nouvelles apps dans les cartons? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous aimeriez intégrer sur Hydra?
Oui, bon, voilà, le 48 mégapixels, bon, on va pas lâcher, hein, on va essayer d'avoir accès à ce capteur et faire des choses avec. Alors, sinon, oui, on aimerait, comme nous, on n'est pas une application de photo, d'appareil photo généraliste, on se spécialise sur des modes, donc on aimerait faire des choses que Apple ne fait pas avec son application caméra. Donc ça, c'est en cours d'étude. Peut-être aussi sur les photographes, ils aiment bien shooter et pas trop se prendre la tête, et après dans un second temps, venir éditer, mais en ayant toute la richesse de la lumière d'origine, en fait. Hein. Et donc ça, c'est un angle qui nous parle beaucoup pour le futur d'Hydra. Donc voilà, on avait introduit le JPEG XL hein, en 2022 dans Hydra. On était une des seules apps à le faire sur l'App Store. Et Apple vient de l'intégrer ici l'année passée ou cette année, je ne sais plus. Et donc, c'est des formats qui nous permettent de garder une grande richesse avant ou après les traitements, et donc qui permet après de refaire de l'editing sans détériorer, en fait. Hein, et donc, on aimerait voilà, étudier toutes ces questions-là de un peu d'écosystème photographique voilà, pour donner un maximum de possibilités aux utilisateurs. Voilà, et pas juste se retrouver avec un JPEG et dès qu'ils y retouchent après, ils cassent la qualité, quoi. Donc, ouais. C'est des pistes chez nous pour le futur d'Hydra.
D'accord. Et toi, Olivier, tu as des projets en cours côté photo?
Oui, alors bon, je fais un peu de tout pour la photo, je fais un peu de portrait, je fais du reportage, évidemment, et je fais de l'institutionnel. D'ailleurs, il m'arrive d'utiliser l'iPhone. Hein. Alors, c'est dans des cas un peu particuliers, parce que, évidemment, je ne me pointe pas chez un client avec un iPhone pour tourner une vidéo principale. Oui. En revanche, pour ce qui est... Il y a des petites choses pour les réseaux sociaux, etc. Ils comprennent très très bien que l'iPhone est plus... Enfin, en tout cas, le smartphone est plus adapté pour certains projets. Donc, voilà, moi, je fais un peu tout ça. Et puis, depuis quelques temps, j'ai commencé la vente de séries limitées. Puisqu'on m'a demandé, c'est sur Instagram, on m'a demandé, voilà, est-ce que tu vends tes trucs là, tes photos. Donc je les vends maintenant en série limitée, donc je commence tout doucement sur un site au nom très original, olivierbuzutil.com. voilà, donc j'espère répondre comme ça à ceux qui m'ont demandé si je vendais un peu mon travail.
Ok. Eh bien, merci à vous deux pour ce petit tour d'horizon de l'iPhone et de la photo en 2025. On attend désormais les futurs iPhone 17 et 17 Pro qui arriveront en septembre. Olivier, merci d'être passé. À bientôt.
Eh bien, merci de m'avoir invité. J'étais très très heureux de participer à cette conversation vraiment enrichissante. Très sympa.
Un plaisir, ouais. Raphaël, bon courage avec Hydra, du coup, à plus.
Oui, merci. Et de même, j'ai trouvé ça super.
et nous on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.